Vous écoutez Radio Campus Tour, vous écoutez La Méridienne, c'est Mélissa et nous sommes ensemble de midi à 13h.
Mais d'abord, la chronique littéraire de Joseph que vous retrouverez tous les mardis dans La Méridienne.
Bonjour à tous, je vous propose cette chronique hebdomadaire dans le but de vous présenter les articles, revues ou ouvrages m'ayant particulièrement convaincu ou déplu. J'aimerais donc commencer en vous présentant, à l'occasion de sa sélection pour la rentrée littéraire, une œuvre de l'immense Amélie Nothomb. Mais avant cela, quelques mots sur cette auteure aussi singulière que, ne mâchons pas nos mots, brillante. Brillante tout d'abord par ses études de philologie romane et par sa parfaite maîtrise de la langue du pays du soleil levant. Également brillante par sa capacité d'imagination et de rédaction, publiant un livre chaque année. Dans cet ouvrage, la géniale Amélie Nothomb effectue donc un retour dans le Japon de son enfance, une fois ses études terminées. Son expérience particulière dans ce pays de l'Extrême-Orient, où toute la société doit subir et appliquer des codes de bienséance très lourds, va se révéler particulièrement traumatisante pour la jeune occidentale, fraîchement arrivée, dans l'immense entreprise Yomimoto en tant que stagiaire-interprète. La jeune Amélie Nothomb commence son roman par cette longue énumération des responsables hiérarchiques. Monsieur Haneda était le supérieur de Monsieur Omoshi, qui était le supérieur de Monsieur Saito, qui était le supérieur de Mademoiselle Mori, qui était ma supérieure. Avant de conclure, et moi je n'étais la supérieure de personne. Nothomb connaîtra successivement les fonctions de stagiaire-interprète qui n'interprétera jamais rien, de serveuse de café, de comptable maladroite et de livreuse de courrier gaffeuse et enfin de surveillante de toilette. Cette descente aux enfers sera le résultat de gaffes plus ou moins importantes commises involontairement et de la répartie cinglante de la jeune stagiaire perçue comme un irrespect profond pour et par sa responsable, Fubuki Mori. En définitive, ce roman constitue le récit truculent d'une descente vertigineuse sur l'échelle de la dignité et un témoignage sur la société japonaise. Ainsi, à l'avenir, n'oubliez pas de vous adresser à votre supérieur hiérarchique, comme prescrit dans l'ancien code impérial japonais, c'est-à-dire avec stupeur et tremblement.
Bonjour Marie-Ève Schiffer.
Bonjour Mélissa.
Alors vous êtes la responsable de la forteresse royale de Chinon, et si nous avons le plaisir de vous avoir ici dans notre studio, c'est pour nous parler de la JEP. Donc, alors qu'est-ce que c'est la JEP ?
Alors JEP, c'est le sigle pour les Journées Européennes du Patrimoine, hein, qui ont lieu tous les ans au mois de septembre. Et donc pour l'ensemble des monuments et musées en Europe, c'est vraiment pour nous l'occasion de développer des actions, des programmes spécifiques pour ces journées-là, pour permettre vraiment une belle découverte de nos monuments et musées.
Alors cette journée européenne du patrimoine, est-ce qu'elle est vraiment reprise partout en France ?
Ah oui, tout à fait. Il y a des programmes qui sont vraiment édités dans toutes les régions. Donc selon les cas, selon le statut des musées et monuments, il y a soit la gratuité qui est accordée dans des lieux qui d'ordinaire sont payants, ou alors, et également, enfin c'est pas contradictoire, ou alors, ou en plus, voilà, des visites spécifiques, des animations spécifiques qui sont déployées ce jour-là.
Que voulez-vous nous détailler justement quels sont les monuments qui sont liés au conseil départemental d'Indre-et-Loire ?
Oui, alors en Indre-et-Loire, le département est propriétaire d'une demi-douzaine de monuments, donc bien sûr la forteresse de Chinon dont je suis responsable, également la cité royale de Loches, donc ça ce sont les deux grandes forteresses médiévales, mais il y a également des maisons d'écrivains, avec effectivement le prieuré Saint-Côme pour Ronsard, également la Devinière, qui était la demeure de Rabelais, et puis le château de Saché pour Balzac, qui a effectué de nombreux séjours. Il y a également le château de Candé, et puis en centre-ville de Tours, l'hôtel Gouin, où il y a de nombreuses expositions qui sont organisées. Et puis, pour finir, le musée de la préhistoire hein, du Grand Précigny. Donc, vous voyez que toutes les périodes non historiques et historiques sont vraiment représentées.
Alors, qu'est-ce que ça implique pour ces établissements d'être liés au conseil départemental ?
Alors, ce sont donc nous sommes des établissements dit public, en fait. Hein. On est géré effectivement par une collectivité territoriale. Bah, les implications, par exemple, on les retrouve au niveau de notre organisation, qui est une organisation dans laquelle nous avons de nombreux services dits supports qui nous aident pour la préparation de toutes nos expositions et musées. Et donc, ces services supports sont centralisés à Tours au conseil départemental. Et puis, je pense que est attaché également à cette notion de collectivité territoriale, bah pour toutes les personnes qui travaillent dans nos monuments, une idée en fait hein, du service public.
Vous voulez nous expliquer ce que vous appelez les services supports ?
Oui, alors ce sont sur les sites en fait en général vous allez trouver un responsable de site et puis toute une équipe derrière, et les équipes sur les sites ont pour vocation de l'accueil du public et la médiation. Alors déjà pour que nos monuments existent, il y a tout simplement des services comptables qui doivent nous aider à faire nos comptes, c'est indispensable. Et puis comme je vous le disais, il y a également des personnes qui travaillent avec nous dans les monuments qui dépendent aussi de ces services, comme les agents d'entretien, les jardiniers. Donc c'est tout un système de gestion, et puis bien sûr également le service de communication où nous avons des responsables communication, des attachés de presse en fait hein, qui travaillent à la communication de nos monuments et musées, c'est essentiel. Et puis si je commence à citer dans le détail, je vais forcément oublier du monde, mais voilà, le service aussi pour l'événement qui nous aide à organiser les événements, les expositions, tout un système qui nous accompagne en fait dans les monuments, et sans ces services nous ne pourrions pas exister et vivre correctement.
Alors vous parliez aussi de services publics, donc c'est à la mode en ce moment le service public, on en entend parler régulièrement dans les médias. Est-ce que vous voulez les partager qu'est-ce que vous entendez par service public ?
Alors, le service public, c'est peut-être l'accueil dans nos monuments, notamment l'accueil des scolaires, par exemple, en Indre-et-Loire, l'accueil des écoles primaires et des collégiens du département. L'accès est gratuit pour ces structures dans nos monuments et musées, par exemple. Donc on a pour faciliter en fait hein, l'approche de nos monuments et pour permettre aux scolaires de venir compléter leur vision de la littérature ou du Moyen-Âge, par exemple, hein, selon le monument choisi.
Donc la vocation, enfin en tout cas le fait d'être de service public, ça s'adresse qu'aux scolaires ou il y a d'autres...
Non, je crois que c'est un état d'esprit en général. Maintenant, d'accueil hein, du public, mais qui se fait aussi dans d'autres monuments hein, qui ne sont pas publics. Mais c'est vrai que nous, on a cette petite spécificité-là.
Ça veut dire que vous êtes peut-être particulièrement attaché au fait de rendre accessible le patrimoine local ou quelque chose comme ça ?
Voilà, et puis pour en revenir aux journées du patrimoine, par exemple, tous les monuments du département sont gratuits. Ce week-end-là, précisément, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les structures culturelles qui ouvrent leurs portes pour les journées du patrimoine.
Voilà, donc gratuit 21 et 22 septembre. Alors, en fait, dans ce programme, on sait déjà qu'il y aura des mini-salons musicaux, des lieux historiques racontés par des médiateurs, concerts d'un duo guitare et harpe, démonstrations d'allumage de feu, jeux de piste petits et grands. Voilà, donc non seulement du patrimoine, mais aussi toute une programmation culturelle. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots ?
Oui, dans chacun des monuments ont été développés effectivement des visites spécifiques ou des animations spécifiques. Par exemple, pour la forteresse de Chinon, on va proposer des animations jeunes publics Notamment avec un fonctionnement de nos trébuchets et bricoles, qui sont des machines de jet du Moyen-Âge, qui ont toujours beaucoup de succès auprès du jeune public. On va vous proposer, et donc c'est des choses qu'on va proposer que ce jour-là, une visite de la chambre de Charles VII, qui a été installée à la forteresse de Chinon il y a un an. Donc on va vous expliquer un petit peu voilà, ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans la chambre de Charles VII et quelles étaient les particularités d'une chambre royale. On propose également, nous, à la forteresse, pendant ce week-end-là, des visites un petit peu plus courtes que d'habitude, qui permettent d'être un petit concentré d'histoire pour permettre à un maximum de visiteurs de découvrir le site après avec ses quelques clés historiques. Et donc ce sont des choses qu'on retrouve bien évidemment dans les autres monuments du département. À Loche, vous allez avoir des visites guidées avec des départs toutes les heures, mais également une visite de l'exposition Sforza, un mécène au cachot. Voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, ça va être les derniers jours pour découvrir cette exposition. Et puis à Loche et à Chinon, on a la chance de bénéficier d'un histopade depuis quelques mois maintenant. Donc il pourra être testé pendant ces journées-là par les visiteurs qui n'ont pas encore pu le faire pendant l'été.
Alors juste, excusez-moi, je vous interromps, Marie-Ève Schiffer. Est-ce que vous voulez préciser pour nos auditeurs ce qu'est un histopade ?
Oui, alors un histopade, c'est une tablette, hein, concrètement, qui permet de voir à travers la tablette les différentes salles telles qu'elles pouvaient être au Moyen-Âge, en fait, à 360 degrés. Par exemple, une salle qui aujourd'hui serait vide ou aurait une autre destination. Eh bien, en activant l'histopade dans cette salle, vous allez pouvoir, à 360 degrés, retrouver un espace meublé comme au Moyen-Âge, avec des tentures. Donc, c'est un dispositif de reconstitution un petit peu immersif qui permet de voir les espaces tels qu'ils étaient au Moyen-Âge.
Voilà, excusez-moi, je vous ai interrompu.
Non, pas du tout. C'est une technologie qui utilise la reconstitution en 3D et effectivement elle est présente dans deux monuments du département désormais.
Donc on peut rappeler dans quel monument on peut trouver l'histopade ?
Alors donc c'est à Loche et à Chinon.
Voilà. Alors à Loche et à Chinon, et il y a encore d'autres structures dans ce département. Alors qu'est-ce qu'on pourra voir ailleurs ?
Alors, Beaucoup de choses dans le Chinonais, par exemple. Juste à côté de la forteresse, nous avons le musée Rabelais, la Devinière, qui est notre voisin, et qui va proposer un concert en partenariat avec l'association Voyage en guitare. Un concert d'un groupe qui s'appelle les Afterbees. Donc c'est un duo guitare-harpe. Et le concert se tiendra dans les jardins de la Devinière le dimanche 22 septembre à 15h. Et au musée Rabelais, toujours, il y a un concept effectivement de rap visite, qui est ce concept de visite courte qui donne des clés historiques d'un lieu pour aller à l'essentiel, puis qu'on favorise pour les journées du patrimoine, pour permettre aux visiteurs aussi de visiter plusieurs sites dans la journée s'ils le souhaitent. Donc voilà, dans le secteur du Chinonais, la forteresse de Chinon et le musée Rabelais qui est tout à côté. Pas très loin non plus, le château de Saché et son musée Balzac. Donc il y aura des visites guidées tout au long de la journée qui présentent la vie et l'œuvre de Balzac. Donc un départ toutes les heures, 10h30, 11h30. Et ce sont aussi des visites guidées de 15 minutes. Qui vont porter cette année sur l'exposition qui est en cours, c'est-à-dire des personnages balsaciens modelés par le sculpteur Pierre Ripper. Donc des petites présentations de 15 minutes. Également des mini-salons musicaux chez Balzac. Donc une médiatrice du musée qui va évoquer les goûts musicaux d'Honoré de Balzac et la place de la musique dans son œuvre. Et c'est illustré puisque la médiatrice jouera des extraits des pièces contemporaines du romancier sur un piano qui se trouve au musée. Donc là aussi, ces mini-salons musicaux ont une durée de 15 minutes, avec des représentations à 11h, 12h, le samedi et le dimanche. Et également, en complément, des micro-siestes balzaciennes qui sont organisées par le musée. Donc pour ceux qui ont envie de s'allonger dans un transat ou sur l'herbe et d'écouter des extraits de l'œuvre de Balzac qui sont lus par une médiatrice. Voilà, une bonne occasion, je pense, de lâcher prise aussi pendant ces journées du patrimoine. Donc ces micro-siestes balzaciennes sont également d'une durée de 15 minutes. Elles seront proposées samedi et dimanche à 14h.
Voilà déjà, alors le temps de vous laisser reprendre votre souffle pour continuer à nous présenter ce programme. Une question, alors pas perfide, hein, mais sur la durée en fait des événements, donc des visites courtes, de mini-événements, de micro-événements, 15 minutes, ça correspond aussi à une séquence dans une émission de radio, au bout de laquelle on sait que l'attention des auditeurs oui. flotte, et que voilà, c'est déjà 15 minutes, c'est déjà bien. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé aussi chez les visiteurs ?
Oui, tout à fait. Hein, on essaye de coller au plus juste, effectivement, aux attentes des visiteurs. Et oui, ce délai, je crois que quand on doit tous captiver l'attention d'un public, on y fait attention. Là, pendant les journées du patrimoine, il y a en plus la dimension de... On sait que nos visiteurs, ils veulent voir le plus de choses possible, tester le plus de choses possible, y compris sur un même site. Donc, comme on propose des choses différentes qu'on ne fait pas d'habitude dans ce format-là, eh bien, par exemple, là, chez Balzac, ça permet aux visiteurs à la fois d'avoir une présentation commentée d'une exposition et ensuite d'aller se joindre à un mini-salon musical et puis ensuite de terminer par une micro-sieste. Et là, si on cumule les trois, on est sur une durée de trois quarts d'heure, une heure, qui correspond à la durée sur laquelle se déploient d'habitude nos visites guidées ou nos actions de médiation, en fait. L'idée, c'est aussi de pouvoir cumuler différentes choses pour y rester sur le site quand même une heure, voire plus, si affinité.
Mais c'est pas un constat que vous faites de façon générale, que les gens ont du mal à se concentrer plus de 15 minutes sur quelque chose ou...
Alors, ça dépend hein, de ce qu'on leur propose. Par exemple, parfois dans nos visites guidées, des fois on ne joue pas que sur la durée, mais on peut jouer aussi sur le contenu, sur les propositions d'interagir avec nous qu'on peut leur faire. Par exemple, à la forteresse, ça nous arrive quand on fait une présentation un petit peu pédagogique, par exemple avec nos machines de jet, de passer à la pratique et de leur faire tirer des projectiles. Donc ça permet en fait de contourner cette difficulté en fait à l'intérieur d'un format qui serait plus long.
Voilà, donc là l'idée c'est de faire jouer les gens.
Qu'ils deviennent acteurs aussi, oui. Un petit peu de leur visite ou d'une animation.
C'est intéressant hein, de voir tout ce que vous pouvez mettre en œuvre pour intéresser un public, donc aussi bien donc, les faire essayer vos dispositifs, là, vos armes de jet. On voit qu'il y a aussi le recours au numérique. Voilà, vous utilisez aussi les arts de la scène, hein, puisqu'il y a une lecture jouée, en fait, une comédienne ou une lectrice en tout cas, et de la musique. Donc on voit que vous avez vraiment développé des outils très différents et qui vont puiser dans plein de domaines de compétences.
Oui, tout à fait. Et puis voilà, toujours dans cette idée de quelque chose de diversifié et puis qui permette aussi, oui, effectivement, de capter l'attention dans les meilleures conditions à chaque fois. Bon, je vois qu'enfin dans les sites, ce sera peut-être pas forcément le cas pour les journées du patrimoine, mais on développe aussi beaucoup les visites sensorielles. Parce qu'en fait, quand on fait ressentir des choses à partir des sens, c'est quelque chose qui s'imprime beaucoup plus facilement dans la mémoire qu'au niveau des processus d'apprentissage. En fait, ces sensations s'impriment très très bien dans la mémoire et facilitent après effectivement le fait que l'information va rester plus longtemps.
Vous avez un exemple peut-être de visite sensorielle ?
Oui, par exemple, à la forteresse, nos équipes de médiateurs ont développé des visites sensorielles depuis quelques années. Alors, il y a des petites astuces, par exemple, de montrer des choses, par exemple des voûtes, ou de décrire le système des voûtes gothiques en architecture, en les regardant dans un miroir, ça peut donner l'impression, l'illusion de marcher dessus en créant des jeux de miroirs. Il y a beaucoup de choses aussi avec les odeurs. Hein. Ça paraît tellement évident quand on le dit. Voilà, ressentir une ambiance, une époque à travers des odeurs, ça fonctionne très très bien aussi. Hein. Si vous voulez évoquer un lieu, par exemple, où il y a des fours à pain, où on fabriquait du pain au Moyen-Âge, tout de suite, si vous avez une petite odeur de pain qui flotte dans l'air, ça va vraiment créer des sensations nouvelles. Mais ça peut être des dispositifs tout simples, en fait.
Voilà, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a ce souci aussi de que ça reste en mémoire, que les gens se souviennent de ce qu'ils ont découvert, appris sur place.
Alors que ça reste en mémoire, et puis peut-être de jouer sur les émotions, en fait, qu'ils ressentent quelque chose et qu'ils associent aussi cette émotion à un élément historique.
Ah, donc l'histoire émotive, disons, ça change quand même de l'image peut-être un peu poussiéreuse qu'on peut se faire d'un musée, de dire qu'il y a tous ces dispositifs mis en œuvre et qu'on réfléchit même à intéresser les gens de façon émotive, à les impliquer dans la visite.
Oui, les musées évoluent partout. Hein. C'est partout en Europe, les musées évoluent, s'approprient ces nouveaux domaines de connaissances. Il y a un vrai travail qui est fait sur les publics. Et c'est important, je pense, d'essayer d'évoluer en même temps que la société évolue. Hein. Je crois qu'en ce moment aussi, la société évolue.
Espérons-le. Et alors, il y a encore des sites dont nous n'avons pas parlé, il me semble.
Voilà, donc je vous ai parlé de la citadelle de Loches, du musée Rabelais de la forteresse de Chinon, du château de Saché. On a également au sud du département le musée de la préhistoire du Grand Précigny, qui a mis en place des visites express, hein, on reste dans le sujet, qui s'intitule « Une heure chez Cro-Magnon ». Où il va s'agir d'essayer de comprendre comment vivaient nos ancêtres et découvrir un campement de l'homme de Cro-Magnon ainsi que des techniques de production du feu, puisqu'il y aura des démonstrations qui seront faites des démonstrations de feu qui seront faites. Donc c'est samedi et dimanche à 11h, 14h45 et 16h45. Et alors on a également pour ces journées du patrimoine une conférence hein, de Michel Philippe qui est le responsable du musée. Sa conférence portera sur Lucie, notre ancêtre Lucie, jusqu'aux premiers agriculteurs, une brève histoire de l'homme. Et dimanche à 15h, une seconde conférence qui sera donc réalisée par Marie-France Cruzier, qui est archéologue à l'INRAP, et qui s'intitule « Les ateliers de taille et de hache, enfin de taille de hache et en silex, du Gâtinais au Néolithique ». Donc cette deuxième conférence est co-organisée avec l'association des Amis du Musée du Grand Précigny.
A-t-on parlé de Candé ?
Alors non. Nous n'avons pas encore parlé de Candé, puisqu'il est effectivement aussi possible de faire une visite gratuite du château de Candé, qui est un château, hein, je le rappelle pour nos auditeurs, du tout début du XXe siècle, qui est entièrement meublé, qui est entouré par un magnifique parc arboré. À l'occasion des Journées du patrimoine, quatre artisans restaurateurs, horlogers, restauratrices de tableaux, restaurateurs de meubles anciens et tapissières d'ameublement seront disponibles à Candé pour vous faire partager leur passion et découvrir en fait hein, ces métiers d'art qui nous sont indispensables aussi pour entretenir le patrimoine qu'on présente dans ces lieux. Donc à Candé, voilà la visite libre et puis les artisans d'art seront présents de 10h30 à 18h.
On peut détailler peut-être artisans d'art, quel type de métier on pourra voir ?
Oui, alors il y aura un horloger, une restauratrice de tableaux, un restaurateur de meubles anciens et une tapissière d'ameublement.
Et c'est l'occasion pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont intéressés par ces métiers, peut-être justement d'aller les rencontrer.
De les rencontrer, peut-être de découvrir une vocation. on travaille assez régulièrement avec ces artisans d'art hein, dans nos monuments. Voilà, il y a des mécanismes d'horlogerie à entretenir, il y a beaucoup de garnitures textiles également hein, à Candé, hein, des rideaux, des fauteuils. Donc, ce sont eux qui nous permettent hein, de présenter ces meubles et objets voilà, avec dans des meilleures conditions et restaurés.
Alors, ça va sembler un peu naïf comme question, mais s'il y a parce qu'on imagine bien que les tentures, ça s'entretient, il faut les laver. Donc, c'est-à-dire que comment ça se passe ? On enlève tout d'un coup ? Ou est-ce que vous avez des tentures de rechange ? Comment on fait pour entretenir ça ?
Oh non, a priori, on n'a pas de rideau de rechange. On programme ces opérations, j'allais dire quasiment de maintenance, puisque le terme de maintenance, c'est un terme qui parle à tout le monde. On les programme en généralement pendant une saison creuse, pendant que le monument est fermé, pour effectivement les raccrocher avant la réouverture au public.
Voilà, donc ça, c'est justement les coulisses des lieux d'histoire. Peut-être que les visiteurs n'imaginent pas toujours toute cette logistique.
Oui, c'est vrai que quand on n'est pas effectivement plongé dedans, on n'imagine pas forcément toute cette logistique. Oui, c'est vraiment un petit peu les coulisses de l'histoire. Et oui, on sait que c'est un sujet qui intéresse nos visiteurs. Hein. Il y a une forte demande sur la vie des sites. Hein. Et puis on voit que les sujets se multiplient aussi dans les médias. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'être présent aussi à ces journées-là pour répondre aux visiteurs, être présent dans les salles des musées, oui, ça permet de répondre aux questions des visiteurs, d'avoir vraiment des échanges différents.
Et puis c'est vrai que l'idée de s'intéresser peut-être à ces choses qui semblent un peu prosaïques, hein, de comment on entretient des rideaux, bon. Mais c'est aussi de dire que là, je suppose hein, qu'il en soit, il n'y a pas de questions stupides, puisque parfois les gens peut-être n'osent pas trop aller poser des questions.
En général, si, hein, si. Alors, il n'y a pas de questions stupides, hein, je suis entièrement d'accord. Et puis, je pense que nos visiteurs sont de plus intéressés par les questions techniques, par les métiers qui travaillent avec nous. Oui, c'est vraiment l'occasion d'approfondir. Et puis, faut pas hésiter hein, à nous poser ces questions-là. À la forteresse de Chinon, on travaille également avec des artisans d'art hein, sur le projet des chambres royales, notamment la chambre de Charles VII qui a été refaite il y a un an. Donc ça fait partie aussi hein, des contenus de nos visites, hein, d'expliquer aux visiteurs comment on a travaillé sur ces projets-là, avec quel type d'artisans, la coordination qu'il faut mettre en place sur ce type de projet où souvent on a plusieurs métiers qui se côtoient et qui doivent travailler ensemble.
Peut-être nous dire un mot justement, parce que l'idée de refaire la chambre, là, peut-être que pour les auditeurs, ils vont penser peinture ou Ikea. Donc, est-ce que vous voulez nous expliquer, en tout cas pour la forteresse de Chinon, ce que ça a pu impliquer ?
Oui, pour la forteresse de Chinon, nous avons mis en place un comité scientifique. Donc l'idée, c'était de recréer la chambre de Charles VII à l'endroit où elle se trouvait, dans les logis royaux à la forteresse. Pour nous, c'est un vrai plus, effectivement, de pouvoir remeubler la pièce vraiment telle qu'elle pouvait être à l'époque. Donc, faut savoir qu'un roi a deux chambres en général, une chambre semi-publique qu'on appelle la chambre de parement, où il reçoit, où il peut avoir des relations diplomatiques, et vraiment la chambre privée où il dort et où il prend ses repas lorsqu'il est seul. Donc nous avons refait la chambre privée du roi à l'endroit où elle se trouvait. Et la particularité de ce projet, c'est que nous ne sommes pas allés chercher des objets de collection dans des musées. On aurait pu aller chercher un lit ou un coffre dans différents musées. Nous avons vraiment souhaité recréer des meubles, notamment, tels qu'ils pouvaient être et aussi tels qu'ils étaient décrits dans les contres royaux de Charles VII, puisque nous avions cette base d'archives qui nous permettait d'appréhender ce projet de cette manière-là. Donc ce projet, il mêle des artisans d'art qu'on a déjà cités, donc un ébéniste pour refaire un lit, une table, des sièges et des coffres surtout. Le coffre, c'est vraiment le meuble emblématique du Moyen-Âge. Et donc également une tapissière, puisque un lit, il y a toute la garniture textile qui va avec. Alors par garniture textile, pour un lit au Moyen-Âge, on entend à la fois les matelas, puisqu'il y avait, c'est une spécificité de l'époque, plein de matelas superposés, également donc des draps, une courte pointe, des coussins. Donc la courte pointe, nous l'avons fait broder de fil d'or par une brodeuse. Donc c'est un métier supplémentaire, différent de celui de tapissière. Et puis les lits de cette époque sont des lits avec des dais suspendus, des ciels de lit et des courtines, c'est-à-dire des rideaux qui pendent tout autour du lit. Et ce dais suspendu, il a fallu le suspendre au plafond. Et là aussi, nous avons fait appel à un métier particulier pour tisser des cordes en chanvre pour suspendre ce dais, puisqu'il y a des techniques de tissage, parce qu'il fallait réaliser des épissures, comme au Moyen-Âge. Les épissures, ce sont des boucles, en fait. Il faut entrecroiser les brins de cordes d'une certaine manière. Et donc, nous avons fait appel à un spécialiste qui se trouve à Nantes et qui est plutôt spécialisé dans les gréements et les vieux voiliers, puisque ces techniques-là, elles sont parvenues jusqu'à nous à travers ces métiers qui exercent encore sur des voiliers traditionnels, en fait. Donc voyez, on peut être amené à aller chercher des métiers d'art à des endroits qu'on ne soupçonnerait pas.
Et alors tout ça, est-ce que vous avez gardé des traces de ces travaux en train de se faire ? Ou alors est-ce que les artisans vous ont apporté les objets finis ?
Alors non, moi j'essaye de garder des traces, de documenter. Donc par exemple, j'ai constitué un dossier de fin de travaux avec, déjà c'est important, ne serait-ce que garder la trace des noms et des artisans et de leurs coordonnées, et puis d'écrire ce que chacun a fait et comment il a travaillé. Je pense que c'est important de constituer ce dossier de fin de travaux, en fait, en quelque sorte.
Parce que même après, je ne sais pas si c'est possible, mais d'imaginer même de le documenter en photo ou en son.
Bien sûr, en photo, oui, on prend des photos. Et alors en son, je comprends ce que vous dites, on n'est pas allé jusque-là, mais c'est vrai que, par exemple, l'année dernière, on avait en projet pour les Journées du patrimoine de faire une interview de l'ébéniste avec lequel on a travaillé, qui est passionnant. qui recrée ses propres cols à base de matériaux naturels, etc. Donc voilà, on avait imaginé faire une interview pour qu'il décrive tout ça. Mais effectivement, peut-être le dossier qui est constitué ne va donner qu'un aperçu du savoir-faire de ces artisans qui souvent ont plusieurs cordes à leur arc aussi, également.
Mais il y a peut-être aussi un des plaisirs des personnes qui viennent dans les monuments, c'est qu'on leur raconte des choses.
Oui, qu'on leur raconte une histoire,
voilà, raconte
tout
une
à fait.
Histoire. Et donc c'est pour ça que ça semble précieux aussi d'avoir tous ces professionnels qui racontent en fait ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, je fabrique des cols, je fais ça parce que le rendu que je veux, c'est telle chose. Même la brodeuse qui explique, alors là, le fil d'or, je le tiens comme ça parce que sinon il casse.
Ouais.
Et tout ça, c'est passionnant. En fait.
Tout ça, c'est passionnant. Nous, par exemple, l'année dernière, nous avions fait venir des artisans d'art à la forteresse, donc la tapissière et l'ébéniste qui ont pu effectivement faire tout ce que vous décrivez. Donc cette année, on peut les retrouver au château de Candé. Alors ce ne sont pas forcément les mêmes artisans avec lesquels on travaille, hein, les uns et les autres. Mais, et puis nous, cette année, à Chinon, ce sont nos médiateurs qui souvent ont vu ces artisans travailler, qui quasiment à chaque fois les ont aidés. Parce que quand ils viennent installer un meuble ou une tenture, toute l'équipe participe aussi à cette installation, donc qui ont eu l'occasion d'échanger avec eux et qui vont donc retranscrire cette ambiance quelque part auprès de nos visiteurs. Donc cette année à la forteresse, ce sont nos médiateurs qui sont chargés de cette mission et de faire revivre cette chambre de Charles VII. Vous parliez aussi de garder la trace de ces interventions. Et puis, alors ce qu'on fait, nous aussi, on met de côté des échantillons de matière, en fait, pour que les visiteurs puissent les toucher. Ça, c'est important aussi au niveau des sensations. Parce qu'une fois que, nos tentures sont en place, que notre dais est suspendu, et évidemment, on protège, même si ce ne sont pas des objets de collection anciens, on protège quand même le travail qui a été fait de reconstitution, et on ne donne pas forcément accès à la matière aux visiteurs, donc on met de côté des échantillons pour permettre justement de développer cette médiation, de venir toucher les tissus et les matières.
Ça doit être passionnant pour des médiateurs d'être associés vraiment au travail des artisans, parce que c'est peut-être même plus facile, enfin, entre guillemets, d'expliquer les choses, de raconter les choses s'ils l'ont fait eux-mêmes.
Mais complètement, alors c'est passionnant et puis en même temps c'est indispensable en fait, je pense, pour leur métier, pour la vie du site. Ça devient une expérience aussi pour eux et c'est vraiment indispensable.
Alors je crois qu'il y a encore des sites dont nous n'avons pas parlé. Il me semble qu'il y a l'Hôtel Gouin peut-être.
Oui, tout à fait. L'Hôtel Gouin, qui va inaugurer en fait une exposition sur le cirque, mais après les Journées du Patrimoine, je crois, le 27 septembre. Donc, qui doit être en plein montage d'exposition à cette période-là. Mais il sera tout à fait possible de venir voir l'Hôtel Gouin, d'accéder à la cour qui a été restaurée il y a quelques années par l'architecte en chef des monuments historiques et de pouvoir voir cette très belle façade de la Renaissance.
Alors ça peut être un mot aussi, de dire quand on restaure une façade, on la restaure pas n'importe comment, parce qu'il y a des impératifs, quand un monument est classé, on a des conditions particulières. Est-ce que vous voulez expliquer ça ?
Oui, tous les monuments que nous avons évoqués sont classés au titre des monuments historiques. Donc, de ce fait, les travaux qui sont engagés ne peuvent pas être confiés à, on va dire, n'importe quel architecte, en fait. Ce sont des travaux qui sont confiés à un architecte en chef des monuments historiques qui a une formation en plus de sa formation d'architecte, qui a une formation, une culture comme nous, en histoire de l'art et en histoire tout court. Donc c'est un cursus particulier hein, qui lui permet de prendre en compte également aussi toutes les dégradations liées au temps et aux matériaux d'une région donnée, par exemple, hein, puisque nous sommes en Touraine, et en Touraine, le matériau de prédilection, c'est cette pierre de tuffeau, qui est un calcaire très tendre et qui a la particularité de se dégrader assez vite hein, sous l'effet de la pollution ou même du vent. Et effectivement, les architectes en chef sont également formés sur les dégradations que peuvent subir ces matériaux et comment y remédier.
Voilà, donc c'est ce qui fait, par exemple, qu'on ne peut pas repeindre des volets en verre pomme ou alors mettre parfois des accès pour les personnes à mobilité réduite n'importe où.
Oui, alors ça, c'est un petit peu différent. Il y a ces architectes des monuments historiques qui, sur les édifices classés, ont une réelle compétence technique et historique sur les édifices et qui, ce sont eux qui sont chargés de mener à bien la restauration. Après, sur un contexte plus global, sur l'insertion du monument en lui-même, par exemple, à Tours, tout autour de la cathédrale, effectivement, les contraintes que vous évoquiez, ça, ce sont des contraintes qui existent dans un périmètre, hein, que la loi a instauré dans un périmètre de 500 mètres autour d'un monument historique. Et ce sont des contraintes qui sont aussi gérées par les architectes des bâtiments de France, hein, qui sont distincts des architectes en chef des monuments historiques. Et ce sont les architectes des bâtiments de France qui veillent au respect de cette législation pour que les centres-villes, notamment, restent harmonieux ou que les abords de monuments ne soient pas défigurés.
Je crois qu'il reste peut-être le prieuré Saint-Côme.
C'est tout à fait possible. Donc,
Pauvre malheureux qu'il ne soit pas oublié.
Mais on va réparer ça tout de suite. D'autant que le prieuré Saint-Côme est vraiment aux portes de Tours. Donc c'est très facile de s'y rendre, y compris en transport en commun. Donc le prieuré Saint-Côme va proposer pour les journées du patrimoine des visites guidées toutes les heures. À 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30. Également un jeu de pistes qui s'intitule Énigme chez Ronsard. Et donc, via ce jeu de pistes, les visiteurs seront invités à découvrir le poète de Ronsard en sa demeure, donc sous une forme ludique. Je précise que ce jeu n'est pas réservé qu'aux enfants. Les adultes ont également le droit de s'amuser.
Tant mieux.
Voilà. Donc le jeu sera demandé à l'accueil. Il n'est même réservé qu'aux adultes, puisque je vois que c'est noté à partir de 18 ans. Donc comme il y a un jeu de piste énigme chez Ronsard à destination des adultes, il y a également un jeu de piste à destination du jeune public qui s'intitule, lui, « Plume, qui es-tu ?» et qui est basé sur le personnage de Petit Pierre. Petit Pierre ne se souvient plus où il a laissé sa plume hier. Il ne peut plus écrire alors que le roi et la reine viennent bientôt visiter le prieuré et qu'il doit bien sûr composer un poème en leur honneur. Petit Pierre décide donc de parcourir le prieuré à la recherche de sa plume perdue. Il se rend partout où les moines du prieuré passent du temps dans l'espoir de retrouver cette plume. Voilà un petit peu le jeu qui est proposé aux enfants à partir de 6 ans, qui est également à demander à l'accueil. Donc voilà pour le programme du prieuré Saint-Côme, des visites guidées et deux jeux d'énigmes à demander à l'accueil, un pour le jeune public et un autre pour les adultes.
Voilà, merci Marie-Ève Schaeffer de nous avoir présenté tout ce programme en fait sur les journées européennes du patrimoine, donc les 22 septembre 2019, deux jours de manifestations gratuites partout dans le département.
Merci à vous, merci pour avoir partagé un petit bout de notre travail du quotidien.
Mais c'est avec plaisir. Et peut-être qu'il y a un site où on peut retrouver toutes ces informations ?
Alors la plupart, tous les monuments ont leur propre site internet. Par exemple, Forteresse de Chinon, c'est C'est www.forteresse-chinon. Pour le prieuré de Saint-Côme dont on vient de parler, c'est www.prieuré-ronsard.fr. Donc voilà des adresses mail également. Donc citéroyaldeloche.fr, muséebalzac.fr. Voilà, chaque site développe voilà tous ces programmes que j'ai évoqués avec vous sur leur site internet propre.
Bien, merci encore et peut-être au-delà de ces journées européennes du patrimoine, est-ce qu'on va avoir des surprises à venir à la forteresse royale de Chinon?
Alors oui, c'est une année très riche sur laquelle nous avons commencé à travailler en ces temps de rentrée. Donc tout d'abord, nous préparons actuellement une exposition dans le cadre de Noël au Pays des Châteaux, qui sera mis en place à la forteresse tout le mois de décembre et qui s'intitule « Au pied du sapin ». Donc nous allons donner à voir en fait des sapins du XXe siècle avec les cadeaux qui vont au pied de ces sapins. Une exposition où on va trouver beaucoup de jouets anciens et également une exposition d'affiches anciennes. Donc nous avons noué des partenariats pour les collections de jouets anciens avec les musées de Cholet, avec la bibliothèque Fornay à Paris pour les affiches des grands magasins de cette période de Noël au début du siècle. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette période de Noël. En février, pendant les vacances de février, donc nos visiteurs auront la chance de pouvoir venir tester un nouveau jeu d'énigmes à la forteresse qu'on intitule Monument Game. Donc la forteresse de Chinon, depuis 4 ans maintenant, a développé des escape games au sein du monument. Et cette année, en février, nous allons proposer un concept un petit peu différent. Je ne sais pas, vous connaissez, Mélissa, le principe de l'escape game, où on est enfermé dans une pièce, on a une heure pour sortir, pour trouver la clé. Et là, on va essayer d'étendre ce concept à l'ensemble du monument. Donc plusieurs espaces, plusieurs salles seront concernées. Donc un changement d'échelle.
Voilà, donc il est toujours prudent de se munir d'un papier, d'un crayon et de prendre ses précautions avant de commencer à jouer.
Oui, il y a un petit briefing. Hein. On brief les visiteurs qui veulent devenir des joueurs aguerris. Et puis pour les vacances de Pâques, nous allons inaugurer une nouvelle chambre, la chambre d'Aliénor d'Aquitaine, donc une chambre du XIIe siècle, avec un espace plantagenet qui doit redonner en fait à la forteresse de Chinon, qui est un site plantagenet très important. Donc on a eu envie voilà, de porter à la connaissance du public tout un pan de cette histoire plantagenet qui est très important pour la forteresse. Et puis nous travaillons également en ce moment sur la future exposition qui sera inaugurée en mai à la forteresse, qui s'intitule « Mythes et légendes de la forteresse de Chinon ».
Eh bien, merci Marie-Ève Schaeffer, vous êtes responsable de la forteresse royale de Chinon et à bientôt sur Campus, qui sait.
Merci, au revoir. Thank you.
Thank you.